Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Et bien chers frères, mes bien chers amis, c'est vraiment une délicatesse de la Providence qui permet que ces ordinations qui ont toujours lieu le 29 juin soit faite cette année sous le signe du Sacré-Cœur. C'est en effet aujourd'hui la fête du Sacré-Cœur. Sans doute, Saint Pierre et Saint Paul demeurent présents à notre esprit, à notre dévotion, mais ce n'est pas sans émotion que nous pensons à l'amour de notre Seigneur Jésus-Christ aujourd'hui d'une manière toute particulière. Nous venons d'entendre les magnifiques paroles de Saint Paul sur la charité de notre Seigneur. Ces paroles sont presque intraductibles. Il nous décrit cette immensité, cette infinité de la charité de Dieu. Et si Saint Paul a parlé de la charité dans des termes admirables, Saint Jean aussi a fait écho à cette charité de Dieu. N'est-ce pas lui qui a dit dans sa première épître « Deus caritas est »« Dieu est charité »« Et nos credidimus caritati » que est Sineo. Et nous avons cru, dit Saint Jean, dans la charité qui est en Dieu. Et si l'on considère seulement, même d'une manière relativement superficielle, ce que la charité de Dieu a réalisé pour nous, nous sommes dans la stupéfaction, dans l'admiration, dans la reconnaissance, dans la gratitude pour Dieu qui a tant fait pour nous. L'histoire de l'humanité, l'histoire même de toute la création, c'est l'histoire de la charité du bon Dieu. Et le credo n'est qu'un hymne à la charité de Dieu. Et y a-t-il une relation particulière entre cette charité, cet amour de Dieu pour les hommes et le sacerdoce? Qui le niera? L'histoire de la création des esprits le démontre, et l'histoire surtout de la rédemption des hommes. Dieu, dans son immense charité, a voulu que tous les esprits qu'il a créés soient faits pour s'unir à lui d'une manière ineffable, d'une manière qu'il a conçue vraiment divine. Il a voulu que tous les esprits participent à la grâce de Dieu, que tous les esprits participent à sa divinité, pour l'éternité. Il l'a voulu pour les anges, mais il a voulu les éprouver avant de leur donner, de les faire monter en quelque sorte à l'intime, dans l'intime de son amour, dans l'intime de sa gloire. Dans la Trinité Sainte, il a voulu les éprouver, et hélas, un certain nombre d'entre eux n'ont pas voulu adorer notre Seigneur Jésus-Christ et ont été précipités dans les enfers. Pour les anges, la décision était définitive. Ce ne sont pas des esprits qui vivent dans le temps. Et alors, quand ils prennent une décision, ils ne changent plus. Et cette décision est pour toujours. Alors, cette révolte contre Dieu est définitive. Ils se sont éloignés de Dieu et ont ainsi créé eux-mêmes l'enfer où ils demeurent. Et les autres, avec l'archange Saint-Michel, ont dit « qui est comme Dieu ?» Nous obéissons à Dieu, nous adorons Dieu, nous adorons les desseins insondable de l'amour de notre Seigneur Jésus-Christ et nous adorons l'homme-Dieu. Car Dieu est tout-puissant et Dieu est amour. Et les bons anges ont suivi saint Michel. Et l'histoire de nos esprits et des esprits humains est une histoire certes différente, mais elle ressemble aussi à celle des anges. Le bon Dieu a voulu sonder le cœur de nos premiers parents pour voir s'ils lui étaient vraiment soumis. Et hélas, nos premiers parents lui ont désobéi, se sont éloignés de la volonté de Dieu, entraînant avec eux toutes les générations futures. Mais vivant dans le temps, il y avait place pour la miséricorde du bon Dieu. Car s'il y a quelque chose de plus grand encore que la charité, c'est la miséricorde, se pencher sur le péché, se pencher sur le pécheur, sur celui qui est affligé du péché et qui peut revenir à Dieu. Pour nous, il y avait un espoir de retour, car nous vivons dans le temps. Alors Dieu a résolu de s'incarner et de venir s'offrir au bon Dieu pour racheter les hommes de ce péché, verser son sang pour nous couvrir de son sang et nous rendre de nouveau à la vie qu'il voulait nous donner, cette vie divine, cette vie extraordinaire à laquelle nous nous préparons tous, à laquelle la grâce nous prépare. Mais pour cela, il a pourvu des moyens. C'est lui-même qui a décidé des moyens de la rédemption. Il aurait pu faire autrement. Une seule parole de notre Seigneur Jésus-Christ incarné, un seul acte d'amour de notre Seigneur Jésus-Christ aurait suffi pour nous racheter tous. Mais non, notre Seigneur a voulu prouver davantage son amour d'une manière plus sensible, d'une manière plus réelle. Et alors il a versé son sang pour nous. Et il n'a pas seulement voulu faire cela pour sa génération, pour ceux qui l'ont entouré lorsqu'elle était ici-bas. Il est venu pour sauver l'humanité tout entière et les générations futures. Et alors, dans son grand amour, dans sa charité pour nous, il a pensé aux prêtres. Se choisir des élus parmi les hommes qu'il ferait semblables à lui, auquel il donnerait ce pouvoir extraordinaire d'être d'autre Christ, de s'immoler avec lui sur la croix et en même temps de continuer son calvaire, de continuer son sacrifice, de répandre son sang, de donner son corps en nourriture aux fidèles. Voilà le grand mystère de l'amour de notre Seigneur Jésus-Christ, mystère de notre foi, vraiment mysterium fidei. Quelle idée géniale de la part du bon Dieu. Vouloir s'associer des créatures, de pauvres créatures, pécheresses, mais rachetées par son sang, se les associer en les marquant du caractère sacerdotal, du caractère du prêtre qu'il est pour l'éternité, lui, et leur permettre de prononcer les paroles qui continueront sa rédemption. Quelle merveille! Mes chers amis, dans quelques instants, vous serez ces prêtres. Le bon Dieu permettra que vous lui soyez associés intimement, que vous soyez marqués de ce caractère sacerdotal que les anges du ciel vont voir, que vos anges gardiens admireront, que vos parents qui sont au ciel, les élus du ciel, dont les élus du ciel se réjouiront, de vrais prêtres en plus, ceux qui offriront vraiment le saint sacrifice de la messe, continuation du sacrifice de la croix, perpétuation de l'effusion du sang de notre Seigneur Jésus-Christ. Je demande aux photographes de se tenir tranquille et de ne pas déranger la cérémonie. Cet amour de Jésus, dont vous serez remplis par la grâce du sacerdoce, vous donnera des pouvoirs exceptionnels. car loin de croire à ce qui, aujourd'hui, se répand toujours davantage dans les esprits, à l'intérieur même de l'Église, que tous les fidèles sont prêtres, tout le monde est prêtre, et tout le monde participe au sacerdoce de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est une erreur profonde. Les laïcs ne sont pas marqués du caractère sacerdotal, et il faut être marqué du caractère sacerdotal pour pouvoir accomplir le rôle du prêtre, le rôle de notre Seigneur Jésus-Christ, celui qu'il vous a donné. Et quels sont ces pouvoirs particuliers? Le premier pouvoir qui vous est donné, c'est le munus docendi, le pouvoir d'enseigner, pouvoir de continuer la révélation de notre Seigneur Jésus-Christ, de faire naître la foi dans les cœurs, de l'augmenter, de la développer. Cette foi qui est déjà le gage de la vision béatifique, d'une certaine manière, notre foi ne disparaîtra pas, elle se transformera en la vision béatifique, car ce sont les mêmes vérités, les mêmes objets, le même objet qui est Dieu en définitive, qui est notre Seigneur Jésus-Christ, qui fera notre bonheur au ciel dans la vision béatifique. C'est cela que nous croyons déjà par notre foi, par notre esprit de foi. Nous nous unissons à notre Seigneur Jésus-Christ. Et un jour, le voile qui est encore devant nos yeux se déchirera et nous verrons Jésus, la gloire de Dieu, dans la Trinité Sainte. Et notre bonheur sera parfait. Alors c'est cette foi que vous devez faire naître dans les âmes, faire comprendre que nous sommes nés pour cela, que le bon Dieu nous a créés pour nous donner cette lumière de la révélation qui n'est autre que de croire à la divinité de notre Seigneur Jésus-Christ. Et comme le dit si bien saint Paul à ses disciples, « Argue, obsecra, increpa, venit enim tempus cum sanam doctrinam non sustinebum, et ad fabulas convertantur, viendra le temps où des docteurs n'observeront plus et n'enseigneront plus la vraie doctrine, la sainte doctrine, et se tourneront vers des fables. Nous y sommes à ce temps, mes bien chers amis. Nous y sommes. Oui, des docteurs de l'Église, soi-disant de l'Église, enseignent ces fables, n'enseignent plus la vraie doctrine de notre Seigneur Jésus-Christ. Et quelles sont ces fables? Ces fables, c'est l'œcuménisme. Ces fables, c'est la liberté religieuse. Ces fables, ce sont les droits de l'homme. Voilà ces fables vers lesquelles on se tourne et qui trompent les hommes et qui ne convertissent plus les cœurs et les âmes vers notre Seigneur Jésus-Christ. Parce que, justement, votre cœur sera rempli de l'amour de notre Seigneur Jésus-Christ, que vos regards seront toujours fixés sur le calvaire et sur la croix de Jésus, vous comprendrez ces choses facilement, qu'on ne partage pas notre Seigneur Jésus-Christ, on ne le diminue pas. Pour faire plaisir aux hérétiques, pour faire plaisir aux schismatiques, on ne diminue pas notre Seigneur Jésus-Christ. Jésus-Christ est Dieu pour l'éternité. Jésus-Christ est Jésus-Christ pour toujours, eri odie in secula. Alors vous aurez horreur de cette diminution de la divinité de notre Seigneur Jésus-Christ et de sa gloire et de son règne. Instinctivement, vous devez avoir cette répulsion pour ces erreurs qui découronnent notre Seigneur Jésus-Christ. Et vous l'enseignerez aux fidèles, vous garderez de ces erreurs les fidèles qui vous seront confiés, tous ceux qui viendront vers vous. Et en cela, vous vous tournerez aussi vers la Vierge Marie, reine de la foi, elle qui, dans sa foi profonde, n'a jamais eu la pensée un instant qu'on pouvait diminuer la gloire de son divin Fils et le règne de son divin Fils. Et puis, vous avez une autre charge, une seconde charge le munus sanctificandi. Et c'est cela en particulier qui va vous être donné par l'ordination sacerdotale. Vos mains vont être consacrées. Vous allez toucher le calice qui vous servira pour offrir le sacrifice. Vous allez recevoir de l'évêque les pouvoirs d'offrir le saint sacrifice de la messe. Vous allez aussi, par l'imposition des mains à la fin de la messe, recevoir le pouvoir de remettre les péchés à ceux à qui vous les remettrez, de les retenir à ceux à qui vous les retiendrez. Parole de notre Seigneur Jésus-Christ lui-même. Ainsi, après votre ordination, vous serez remplis de ces grâces qui vous permettront de sanctifier les fidèles. Vous aurez là un trésor ineffable dans vos mains. Et le premier trésor, c'est celui d'offrir le saint sacrifice de la messe. Rien n'est si beau, rien n'est si grand que le saint sacrifice de la messe, que de continuer le sacrifice de notre Seigneur Jésus-Christ. Et là encore, mes bien chers amis, vous vous garderez de diminuer ce sacrifice de la messe, de le réduire à une espèce de réunion communautaire, à un repas, à un partage du pain. Non, ce n'est pas cela que vous recevez aujourd'hui. Vous recevez le pouvoir de continuer le sacrifice de notre Seigneur Jésus-Christ. Et dans le sacrifice et par le sacrifice, réaliser le sacrement de l'Eucharistie. Dans le sacrifice de la messe, par le sacrifice de la messe, en même temps que le sacrifice de la messe. On ne réalise pas l'Eucharistie sans le sacrifice. L'Eucharistie étant une victime. Vous savez bien que Sainte Marguerite Marie à la Coque, qui a été certainement une des grandes promotrices de la dévotion au Sacré-Cœur de Jésus, vous voyez précisément le cœur de Jésus dans l'Eucharistie. Quand elle adorait l'Eucharistie, le cœur de Jésus se montrait à elle. Cœur de Jésus transpercé. Donc son sacrifice, donc la victime qui se trouve dans l'Eucharistie. Alors vous vous garderez bien de diminuer votre sacrifice de la messe et de le réduire à un culte qui ressemble plus au culte protestant qu'au culte catholique. En cela, vous tromperiez vos fidèles, vous tromperiez la vocation que vous avez eue. Vous avez la vocation de continuer le saint sacrifice de la messe que Jésus-Christ nous a remis dans vos mains. Et puis vous préparerez les fidèles, vous les préparerez avec tout votre cœur, votre amour miséricordieux. Aujourd'hui, c'est la fête de l'amour miséricordieux de Jésus, le Sacré-Cœur de Jésus. Ayez des cœurs miséricordieux. Penchez-vous sur les pécheurs. Vous aussi, vous êtes pécheurs, nous sommes tous pécheurs. Nous avons tous besoin de la rédemption de notre Seigneur Jésus-Christ, du sang de notre Seigneur Jésus-Christ. Et alors vous vous pencherez sur les âmes qui viendront à vous. Vous les traiterez paternellement, maternellement, les écoutant, les recevant avec bonté, avec douceur, avec patience, pour les relever de leurs fautes, pour leur donner l'absolution, pour les préparer à recevoir Jésus dans l'Eucharistie, avec les meilleures dispositions possibles, de telle sorte que la grâce profite vraiment dans leur cœur et dans leurs âmes et s'épanouisse en vertu chrétienne. Alors lentement mais sûrement, l'Église sera reconstruite par vos mains. Vous remettrez pierre sur pierre pour rebâtir ces beaux temples, le temple de la Sainte Église catholique, qui aujourd'hui semble en pleine destruction. Voilà le rôle que vous aurez. Que le bon Dieu vous garde, mes chers amis, dans cette attitude que vous avez aujourd'hui, dans ces pensées, dans votre foi, dans votre charité, dans votre espérance, dans toutes les vertus que vous avez acquises au cours de vos années de formation. Demeurez dans l'union à notre Seigneur Jésus-Christ. Prenez garde d'être dévoré par l'activité et que cette activité diminue en vous la présence de Dieu, la présence de notre Seigneur. Aimez vos exercices de piété, aimez surtout votre Sainte Messe, mais tous ceux qui peuvent vous aider aussi à réaliser votre sacrifice de la messe dans la journée. Et ayez surtout une grande dévotion vers la Très Sainte Vierge Marie. Il me semble que aujourd'hui, je conclurai par cette parole qui se trouve dans l'office de Notre-Dame des Sept Douleurs. Dilectus meus, candidus, rubicundus, totus desiderabilis, totus amabilis, totum spirat amorem. Mon bien-aimé, dit la Vierge Marie, en regardant Jésus sur la croix, et candide, oui, il est sans tache, mais il est en même temps tout rouge du sang qu'il a versé. Et il respire l'amour, il est tout aimable, respirant l'amour. Caput inclinatum, sa tête inclinée, ses bras étendus, son cœur transpercé, manus extensae. Pectus perforatum. Et l'office ajoute, en mettant ses paroles sur vers de la Très Sainte Vierge, « Oh, pissima Virgo, oh, bienheureuse Vierge, vous considérez, en considérant Jésus-Christ, vous le considérez davantage en ce qu'il est la source du salut des âmes, plus que par le sang de ses blessures. Et en effet, pourquoi ce sang versé? Pourquoi Jésus crucifié? Pourquoi ses mains étendues? Pourquoi cette tête inclinée? Pourquoi ce cœur transpercé? Sinon pour le salut des âmes. Jésus est venu pour cela, pour nous sauver. Alors, demandez à la Vierge Marie de mettre ce sentiment dans vos cœurs, et vous serez alors de vrais prêtres, des prêtres de notre Seigneur Jésus-Christ, des prêtres tout entiers donnés à la charité de Jésus par l'intercession de la Très Sainte Vierge Marie, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Eh bien, chers frères, eh bien, chers amis, nous voici à nouveau réunis pour une cérémonie d'ordination, ordination aux deux derniers ordres mineurs et au sous-diaconat, en attendant la cérémonie de demain pour la réception du diaconat. Ce sont de grandes grâces qui sont faites au séminaire et aux différentes communautés qui se joignent à nous dans ces cérémonies. Grande grâce faite par Dieu à ces communautés et à notre fraternité, car s'il est un don important, sublime, incompréhensible, fait par Dieu aux hommes, c'est bien celui de son sacerdoce. Et ainsi, par le sacrement de l'ordre que vous allez recevoir, mes chers amis, ce sont ces grâces particulières qui vous unissent déjà à Jésus-Christ prêtre et au sacerdoce de notre Seigneur Jésus-Christ. Et je voudrais, en quelques mots, vous encourager dans vos dispositions à recevoir cette grâce toute particulière. Le Concile de Trente nous affirme que nous pouvons et que nous devons coopérer aux grâces que nous recevons. Il le dit particulièrement contre l'erreur des protestants qui nient que les œuvres, que nos œuvres puissent contribuer à la réception de la grâce ou à une augmentation de notre grâce sanctifiante. Le Concile de Trente affirme, au contraire, que nous pouvons et nous devons coopérer à la grâce du bon Dieu, et par conséquent, mériter, sinon la première grâce, au moins la grâce seconde, celle qui augmente en nous la grâce sanctifiante, et même mériter la gloire du ciel, qui sera notre récompense. Oui, donc nous pouvons mériter, puisque nous pouvons aussi, hélas, démériter. Et si nous pouvons démériter et recevoir une sanction grave comme celle de l'enfer, il est bien juste aussi que nous puissions mériter. Et c'est pourquoi il nous est bon de nous rappeler quelles sont ces dispositions que nous devons avoir en nous. Et quelles sont ces dispositions que l'Église demande, par exemple, à ceux qui, adultes, doivent recevoir la grâce du baptême? On ne peut admettre au baptême un adulte qui n'aurait pas certaines dispositions pour la grâce de son baptême, pour la grâce sanctifiante qu'il doit recevoir. Et quelles sont ces dispositions que l'Église demande? Elle demande Fides Theologica. Qu'est-ce que veut dire par là l'Église, Fides Theologica? C'est-à-dire cette foi qui n'est pas seulement une fiducia, qui n'est pas seulement un sentiment de foi, mais la foi telle que l'Église catholique l'entend, qui est une adhésion de notre intelligence aux vérités révélées par notre Seigneur Jésus-Christ, qui est Dieu. Et parce qu'il est Dieu, parce qu'il est la vérité même. Et donc la foi dans les vérités révélées par notre Seigneur Jésus-Christ. Et puis l'Église demande également l'espérance. L'espérance particulièrement fondée sur la miséricorde de Dieu. Miséricorde infinie du bon Dieu. L'espérance de cette grâce qui, pour celui qui va la recevoir, comprend que pour lui c'est une nouvelle existence, une nouvelle naissance, son introduction dans le corps mystique de notre Seigneur, dans le sein de la Trinité Sainte. Et tout cela grâce à la miséricorde de Dieu, grâce à la passion de notre Seigneur Jésus-Christ. Et puis, après la foi, l'espérance, également la charité. Et l'Église demande pour ces catéchumènes, ceux qui se préparent à la grâce sanctifiante qu'ils doivent recevoir, qu'ils aient un initium vitae christianae. Initium vitae christianae. Quel est ce commencement de la vie chrétienne? Eh bien, c'est l'obéissance au commandement de Dieu. Un pécheur public, ne peut pas se présenter pour recevoir la grâce du baptême. C'est évident. Il faut donc qu'il y ait un commencement de vie chrétienne. Puis diligit me, dit notre Seigneur, servat mandata mea, celui qui m'aime observe mes commandements. Et par conséquent, c'est dans cette observance des commandements que se trouve déjà la charité. Cette charité qui s'exprime par la soumission à la volonté du bon Dieu. Trois dispositions fondamentales que nous avons besoin de nous rappeler, car elles sont fondamentales, c'est-à-dire qu'elles doivent demeurer tout le temps dans nos cœurs et dans nos esprits si nous voulons que la grâce augmente en nous. Nous devons garder cette foi, cette espérance, cette charité, et en plus l'Église ajoute encore la timor dei, la crainte de Dieu. Oh, sans doute la crainte filiale, la crainte de nous séparer de Dieu, de nous séparer de notre Seigneur Jésus-Christ, de celui qui est tout pour nous, qui nous a tout donné, à qui nous devons tout. Timor Dei. Et enfin, l'odium peccati, la haine du péché, car le péché est le mal de l'homme, et celui qui risque de nous séparer de Dieu, de nous éloigner de Dieu. Vous voyez comme elles sont belles ces simples dispositions que l'Église demande à tout catéchumène. Et c'est pourquoi, lorsqu'on prépare des catéchumènes à recevoir la grâce du baptême, on leur demande un certain laps de temps pour se préparer et s'habituer à être dans ces dispositions, dispositions qui leur permettront de recevoir la grâce sanctifiante d'une manière fructueuse, d'une manière efficace, qui fera ainsi grandir déjà leur vertu chrétienne, plus rapidement. Et pour ceux qui, comme vous, ont déjà reçu cette grâce sanctifiante, qui ont la grâce sanctifiante en eux, est-il possible encore d'espérer de faire croître cette grâce? Et les grâces que vous allez recevoir ici par le sacrement de l'ordre vont-elles vraiment augmenter votre grâce sanctifiante par la grâce sacramentelle qui va vous être donnée? Oui, vous pouvez mériter en vérité une augmentation de grâce. Mais pour mériter cette augmentation de grâce, il vous faut aussi certaines dispositions dont l'Église parle dans nos traités de spiritualité, dans nos traités de théologie. Il nous faut une plus grande charité. C'est la charité qui accroît la charité, en définitive. Plus nous agissons, plus nous sommes remplis de l'amour de Dieu, de la charité de Dieu, plus nous sommes disposés aussi à recevoir la grâce en abondance. Et c'est pourquoi les âmes saintes, bien que peut-être elles aient moins de difficultés que les autres à cause de leur sainteté, à se disposer pour recevoir ces grâces, mais elles reçoivent des grâces plus abondantes que les autres, parce que leur charité est plus grande. Et comment se manifeste cette charité? Comment pouvons-nous la déceler un peu en nous? Eh bien, saint Thomas, après saint Benoît, disent que c'est la promptitude avec laquelle nous nous donnons, mon Dieu, avec laquelle nous ouvrons notre cœur à Dieu. Cette promptitude manifeste que nous aimons Dieu, manifeste que nous sommes prêts à obéir à la volonté de Dieu, à nous donner à Dieu, à faire cette oblation que vous faites maintenant de vous-même toujours davantage par ces ordinations que vous recevez. Cette promptitude. Saint Benoît la désigne surtout à l'occasion de l'obéissance. Il dit que l'on voit la charité dans l'obéissance à la spontanéité, à la rapidité avec laquelle le sujet répond à la voix de son supérieur, « Allegro pede », dit-il dans sa règle de saint Benoît, « Allegro pede », d'un pied vif, d'un pied rapide, il se rend à l'obéissance de ses supérieurs, pour l'amour de Dieu. Voilà ce qui manifeste la charité. C'est encore d'ailleurs ce que nous dit également saint Paul, lorsqu'il dit « Ilatorem datorem diligit Deus ». Le bon Dieu aime bien celui qui donne, qui se donne avec joie. Avec joie. « Ilatorem datorem diligit Deus ». Il semble que le bon Dieu n'aime pas celui qui donne avec tristesse, comme s'il regrettait le don qu'il est obligé de faire de lui-même, comme s'il regrettait la spontanéité avec laquelle il doit se présenter pour recevoir la grâce de Dieu, pour recevoir l'Esprit Saint, pour recevoir l'amour et la charité de Dieu en lui. Non, le bon Dieu aime celui qui se donne avec joie. Il arem datorem. Et c'est encore saint Paul qui dit aussi aux Corinthiens, « Dilatamini, ô Corinthiens, dilatamini, ouvrez vos cœurs. N'ayez pas des cœurs étroits, n'ayez pas des cœurs fermés, égoïstes, qui ont peur de se donner, qui craignent de se donner au bon Dieu. Élargissez donc vos cœurs. Voilà les dispositions qui peuvent nous faire croître dans l'amour du bon Dieu et nous faire recevoir les grâces des sacrements avec abondance. Et ainsi nous faire monter dans l'union à Dieu, dans l'intimité avec Dieu. Évidemment, il nous faut aussi être dans un esprit de prière, demander au bon Dieu, parce que ce n'est pas par nos propres efforts, ce n'est pas par nos propres dispositions personnelles, sans le secours de Dieu, que nous recevrons la grâce. Alors c'est quand nous devons prier pour demander au bon Dieu de nous donner ces dispositions particulières. Disposition si utile, si nécessaire. C'est une chose d'ailleurs que les diacres, futurs prêtres, doivent se rappeler pour leur ministère. Que la nécessité de la disposition des âmes pour bien recevoir la grâce efficacement. Il faut donc préparer les cœurs. Il faut que les cœurs se préparent à recevoir les grâces. Et ne viennent pas comme par habitude, par routine, pour recevoir les sacrements, pour recevoir la charité de notre Seigneur Jésus-Christ en nous. Sinon, ces grâces risquent de ne pas être fructueuses et de ne pas faire augmenter la grâce sanctifiante dans les âmes. Et le catéchisme du Concile de Trente ajoute que pour les ordinations, une des dispositions principales que doivent avoir ceux qui vont recevoir les ordres, c'est d'avoir la pureté du cœur. Pourquoi la pureté du cœur? Détachement d'eux-mêmes, détachement de toutes les choses de ce monde pour s'approcher de Dieu. Mais, dit le catéchisme du Concile de Trente, cela est nécessaire plus que pour les autres sacrements parce qu'il doit être des exemples, parce que ce sacrement est fait pour sanctifier la société. Ce n'est pas un sacrement comme le sacrement de pénitence, par exemple, qui sanctifie l'âme du sujet qui se confesse, qui reçoit la grâce du sacrement de pénitence, mais l'ordre est un sacrement qui sanctifie pour sanctifier les autres. C'est une grâce particulière qui est donnée pour la sanctification de la société, comme la grâce du mariage est donnée pour la sanctification de la famille. Et donc pas seulement pour les parents eux-mêmes, mais également pour la sanctification de la famille. Bien de même, l'ordre pour la sanctification de l'Église, pour l'accroissement de l'Église, pour l'accroissement du corps mystique de notre Seigneur Jésus-Christ, cette grâce vous est donnée. Et justement pour être un exemple de cet amour de Dieu, cet amour total de Dieu, pour ce détachement total des choses du monde, eh bien, le catéchisme du Concile de Trente nous apprend qu'il faut que ceux qui se disposent aux ordinations aient le cœur pur, le cœur détaché, détaché de toute chose pour qu'ils soient vraiment attachés à Dieu et qu'ils soient ainsi une lumière qui brille par leur sainteté et qui aide les fidèles à se sanctifier aussi. Voyez, voilà les dispositions dans lesquelles vous devez être ce matin et demain matin pour recevoir cette grâce exceptionnelle du sacrement de l'ordre. Remerciez Dieu, rendez grâce à Dieu, rendez grâce à la très sainte Vierge Marie, car c'est par elle que vous recevez cette grâce. Toutes les grâces nous viennent par les mains de Marie. Que ce soit là une grande consolation pour nous, car elle est si bonne, elle est si attentive pour nous, pour chacun d'entre nous, qu'elle nous aidera à avoir les dispositions qu'elle a eues elle-même lorsque la grâce du Saint-Esprit est descendue en elle au moment de l'Annonciation. Oh, s'il y avait un cœur disposé, c'était bien celui de la Vierge Marie. Alors que nos cœurs soient disposés comme le sien pour recevoir cette grâce de l'ordination, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Bien chers frères, mes bien chers amis, nous voici arrivés par ce premier dimanche de la Passion de notre Seigneur, au cœur même de notre année liturgique. Le grand mystère autour duquel toute la liturgie de l'Église tourne en quelque sorte, est organisée, c'est le mystère de la passion de notre Seigneur Jésus-Christ. Dieu a voulu de toute éternité que son Fils prit une chair semblable à la nôtre et une âme semblable à la nôtre et versa son sang pour la rédemption de nos péchés. Grand mystère, certes. Et cette passion de notre Seigneur, à laquelle nous allons assister de nouveau par toutes les belles cérémonies et toutes ces journées émouvantes de la Semaine Sainte, sont des grâces tout à fait particulières qui inondent notre âme de joie et de douleur en même temps face à notre état de pécheur. Et ces semaines se présentent, et ce drame, ce mystère se présente sous la forme d'un combat. Un combat immense, livré entre Dieu et Satan. Car l'Évangile le dit explicitement, Satan prit possession de l'âme de Judas. C'est donc un combat contre Satan, combat contre le péché, combat contre la mort, duquel évidemment Dieu sortira victorieux. Victorieux en nous entraînant, nous aussi, en voulant nous entraîner dans sa victoire. Il va falloir que nous appliquions les mérites de la passion de notre Seigneur pour que nous puissions participer à cette victoire contre le péché, contre Satan, contre la mort. Aujourd'hui, on aurait tendance à oublier la passion de notre Seigneur Jésus-Christ pour ne plus penser qu'à sa résurrection. Volontiers, on laisse disparaître les crucifix pour ne plus représenter notre Seigneur que triomphant. Sans doute, notre Seigneur a triomphé, mais il a triomphé par sa passion. Sa résurrection est comme le résultat de son combat, le résultat de sa passion, de son sang versé. Comme le dit magnifiquement saint Paul, per proprium sanguinem introivit semel in sancta, inventa redemptione. Il est entré dans le sein des saints avec son propre sang, il a versé son propre sang. Ce n'est plus le sang des taureaux, des boucs, c'est le propre sang de notre Seigneur Jésus-Christ, son sang divin qui est répandu pour nous. Et nous sommes portés à nous demander s'il y a quelque relation entre cette passion de notre Seigneur Jésus-Christ et l'ordre, mes chers amis, que vous allez recevoir dans quelques instants, l'ordre du diaconat. Et en effet, il y a des relations intimes et profondes, nécessairement, puisque vous vous préparez au sacerdoce, le sacerdoce n'étant autre que celui de notre Seigneur, il est normal que vous approchant du sacerdoce, vous approchiez aussi de ce grand mystère qu'est la passion de notre Seigneur Jésus-Christ, dans lequel vous devez entrer vous-même, entrer dans cette passion, vous conformer à notre Seigneur Jésus-Christ sur sa croix, car vous prêcherez aussi comme saint Paul, Jésus et Jésus crucifié, bien ce que dit saint Paul. Scandale pour les gentils, scandale pour les juifs, mais sagesse pour ceux qui croient en notre Seigneur Jésus-Christ. Ce sera donc votre sagesse, la croix de notre Seigneur Jésus-Christ. Et dans les paroles que le pontife prononce et va prononcer dans quelques instants à votre sujet, il vous rappellera que ministre de l'Église, successeur des Lévites, Vous allez entrer dans ce combat. Semper in prosciutto. L'Église est toujours dans le combat. In pugna contra adversos, contra animicos. Adversus carnem et sanguinem. Adversus rectores mundius, contre les princes de ce monde. Contre les princes de ce monde qui sont les successeurs de ces princes, des prêtres et des pharisiens qui ont condamné notre Seigneur. Vous entrez dans ce combat. Et parce que vous entrez dans ce combat, vous avez particulièrement besoin du don de force. Et quand l'évêque va imposer sa main sur vos têtes, il demandera pour vous Spiritum ad robur, pour la force. Vous aurez en effet besoin de cette force spirituelle, de cette force surnaturelle, pour vous maintenir dans ce combat. Combat qui est plus actuel que jamais. S'il y a une époque où nous devons combattre, c'est bien celle-ci. Satan est déchaîné, le péché est partout. Hélas, la mort aussi, mort définitive pour beaucoup d'hommes qui ne croient pas ou ne veulent pas croire en notre Seigneur Jésus-Christ. Alors de même que dans ce combat et dans cette passion, nous voyons que notre Seigneur est abandonné par ses disciples. Seule la Vierge Marie demeure au pied de la croix. Stabat iustra crucem mater Jesu. La mère de Jésus demeurait debout auprès de la croix avec saint Jean. Les autres l'ont abandonnée. Eh bien, nous assistons aussi à ce spectacle de la passion de l'Église. Et l'Église est abandonnée. Oui, l'Église est abandonnée. Elle est abandonnée par ceux qui devraient la défendre, par ceux qui devraient proclamer sa royauté, par ceux qui devraient répandre sa vérité partout. Non, comme les princes des prêtres, ils ont préféré plaire aux hommes. Et pourtant, que disent les psaumes ? Qui placent dominibus, nous le disons dans les psaumes que nous récitons le jour du mercredi, qui placent dominibus deus spreviteos, et disperdit saeorum. Ils les méprisent et ils dispersent leurs ossements, ceux qui plaisent aux hommes, au lieu de plaire à Dieu. Et c'est bien ce que dit saint Paul aussi, qui placet hominibus, placere Deo non potest. Celui qui veut plaire aux hommes ne peut pas plaire à Dieu. Ils ont préféré plaire à César. Nous n'avons d'autre roi que César. Eux qui auraient dû reconnaître notre Seigneur Jésus-Christ, qui était l'objet de leur désir, l'objet de leur attente, de tout ce peuple de Dieu choisi pour le Messie. In propria venit et suium non receperont. Il est venu dans sa maison et ils ne l'ont point reçu. Et c'est encore aujourd'hui dans l'Évangile. Notre Seigneur leur dit, vous dites que vous connaissez Dieu, vous ne le connaissez pas. Moi, je le connais, Dieu. Vous l'appelez votre Dieu. Et oui, ils l'appellent leur Dieu. Et ils ont raison, car c'est Dieu qui leur a enseigné lui-même ce qu'il était. À Moïse et par tous les prophètes, ils se sont attachés à Dieu. Et notre Seigneur leur dit, vous dites que vous connaissez Dieu, vous ne le connaissez pas. Parce que si vous le connaissiez, vous me connaîtriez aussi. Et vous me reniez. Parole terrible pour ce peuple qui aurait dû reconnaître Dieu dans ce Messie, dans notre Seigneur Jésus-Christ. Eh bien, nous en sommes là aujourd'hui aussi. On ne veut plus reconnaître Dieu dans la Sainte Église. On préfère plaire aux hommes plutôt que de plaire à l'Église, que de proclamer la vérité de l'Église, sa vérité éternelle, sa sainteté, sa royauté. On préfère plaire aux protestants, plaire aux communistes, plaire aux hommes. Alors vous, chers amis, préparé au combat, recevant la grâce et la force, vous resterez aussi près de l'Église, avec l'Église, dans l'Église. Dans sa passion, vous serez là pour proclamer sa vérité, pour proclamer sa sainteté, pour proclamer son apostolicité, son unité. Et vous ne plairez pas aux hommes, sans doute. Vous serez persécutés parce que vous ne voulez pas plaire aux hommes, mais que vous voulez plaire à Dieu. Attendez-vous aux persécutions, comme notre Seigneur Jésus-Christ. Vous êtes les disciples, et les disciples ne sont pas au-dessus du Maître. Attendez-vous à ces persécutions, comme nous sommes persécutés actuellement. Pourquoi ? Parce que nous voulons maintenir la vérité de l'Église. Parce que nous ne sommes pas disposés à pactiser au prix de la vérité avec ceux qui n'ont pas la vérité, pour nous mettre soi-disant à leur niveau. Alors on verra l'Église maintenant sur le même banc que ces dieux païens, que ces dieux qui n'en sont pas. Omnes dit gentium demonia, dit le psalmiste. Les dieux des gentils sont des démons. Alors on voudrait mettre l'Église sur le même pied que les démons, sur le même banc. Toutes les religions égales, liberté religieuse, égalité toutes les religions, liberté toutes les religions. Non, nous refusons, nous voulons honorer l'Église, honorer Dieu, honorer notre Seigneur Jésus-Christ. Nous refusons ce titre, ces titres qui sont uniques à ceux qui ne sont que des inventions du diable. Alors vous serez ces diacres, Cogitate Stephanum, Sanctum Stephanum. Oui, c'est l'exemple que vous donne la Sainte Église. Pensez à Saint Étienne. Saint Étienne n'a pas voulu plaire aux hommes. Il a plu à Dieu, il a été lapidé. Il a subi son martyre en priant pour ses persécuteurs. Eh bien, vous serez lapidé aussi. Vous serez persécuté, mais vous prierez aussi pour vos persécuteurs. Comme notre Seigneur l'a fait, comme il en a donné l'exemple. Voilà, mes bien chers amis, quel est le modèle que l'Église vous donne? Et le modèle encore plus parfait, c'est celui de Notre-Dame de Compassion, la très sainte Vierge Marie, proche de la croix, dans le silence de son âme, adorant son divin Fils, souffrant avec lui pour la rédemption des péchés du monde. Et vous aussi, vous vous offrirez toujours de plus en plus. Proche de l'autel, vous vous offrirez avec notre Seigneur sur sa croix pour la rédemption du monde. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit. Ils appellent leur Dieu et ils ont raison, car c'est Dieu qui leur a enseigné lui-même ce qu'il était. À Moïse et par tous les prophètes, ils se sont attachés à Dieu. Et notre Seigneur leur dit, vous dites que vous connaissez Dieu, vous ne le connaissez pas. Parce que si vous le connaissiez, vous me connaîtriez aussi. Et vous me reniez. Parole terrible. Pour ce peuple qui aurait dû reconnaître Dieu dans ce Messie, dans notre Seigneur Jésus-Christ. Eh bien, nous en sommes là aujourd'hui aussi. On ne veut plus reconnaître Dieu dans la Sainte Église. On préfère plaire aux hommes plutôt que de plaire à l'Église, que de proclamer la vérité de l'Église, sa vérité éternelle, sa sainteté, sa royauté. On préfère plaire aux protestants, plaire aux communistes, plaire aux hommes. Alors vous, chers amis, préparez au combat, recevant la grâce et la force, vous resterez aussi près de l'Église, avec l'Église, dans l'Église. Dans sa passion, vous serez là pour proclamer sa vérité, pour proclamer sa sainteté, pour proclamer son apostolicité, son unité. Et vous ne plairez pas aux hommes, sans doute. Vous serez persécutés parce que vous ne voulez pas plaire aux hommes, mais que vous voulez plaire à Dieu. Attendez-vous aux persécutions, comme notre Seigneur Jésus-Christ. Vous êtes les disciples, Les disciples ne sont pas au-dessus du maître. Attendez-vous à ces persécutions, comme nous sommes persécutés actuellement. Pourquoi ? Parce que nous voulons maintenir la vérité de l'Église. Parce que nous ne sommes pas disposés à pactiser.